بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Toutes les louanges reviennent à Allah Rabbul Izza qui nous permet de consacrer 15 minutes ou 20 minutes pour l'étude d'un autre verset de la sourate Al-Imran. Vendredi dernier, on avait vu le verset « قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ » Et l'objectif de l'étude de ce verset, c'était de faire naître en nous deux actions intérieures de « أعمال القلوب » le « مُرَاقَبَةُ la pensée permanente d'Allah et « أَلْحَيَاءُ مِنَ اللَّهُ » le fait d'avoir honte de désobéir Allah Rabbul Izzah, parce que ce verset véhiculait le message suivant, qu'Allah sait exactement ce qu'il y a de nos cœurs, ce que nous faisons. Ainsi donc le croyant prend conscience du regard d'Allah sur lui à chaque instant. Et on avait vu le verset يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ, verset qui fait appel à إِحْتِسَابُ الْأَجْرِ, l'espoir de rétribution, que le croyant accomplisse de bonnes œuvres avec conviction que cette action lui portera récompense le jour des comptes, tout comme il délaisse les péchés en connaissance de cause de leurs conséquences au jour de Qiyam. Nous voyons aujourd'hui le verset 186 de la sourate Al-Imran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Avant même de lire la traduction, je pense qu'on a tous compris le thème, un des versets que nous connaissons, nous mémorisons certainement. Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, commente. Il dit que يخبر تعالى إخبارا عاما, Allah Rabbul Izza nous révèle une généralité, une de ces sunnah, une organisation que notre Seigneur a mis en place, c'est que جميع الخليقة, toute créature goûtera un jour à la mort. Personne n'est éternel, ni ange, ni prophète, encore moins être humain. D'où le verset « Kullu man alayha, alayha fan » de la sourate Ar-Rahman. « Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram » Et « Kullu man alayha fan » qui donc « Tafsir Qur'an bil Qur'an » qui commente donc ce verset. Les savants nous rappellent que « Kullu man alayha fan » le sens du verset, tout ce qui existe, je n'ai pas la traduction sous les yeux, mais le sens du verset, tout ce qui existe sur terre ou ailleurs est voué à périr. Et c'est ça qui caractérise les créatures et le dunya. Que ce soit les constructions, que ce soit les paysages magnifiques, que ce soit les personnes qui, de ce monde, sont puissants. Maintenant, on a des dirigeants qui menacent le reste du monde avec leurs armes nucléaires, et ainsi de suite. On a des affrontements à distance, par menaces, par tentative d'intimidation, par rappel des puissances dont ils disposent. Chacun montre ses muscles, mais en finalité, ce ne sont que des êtres humains. Avant eux, il y avait d'autres personnes encore plus puissantes, sans citer les noms, des grands, ça peut être des rois, ça peut être souvent des tyrans, qui dirigeaient des parties du monde. Maintenant, si on prend un exemple du Coran, on citerait l'histoire, le cas de Pharaon, tout le monde connaît. Quel était le mulk de Pharaon? On connaît Haman, on connaît Qarun. On a connu donc ces personnes qui avaient du pouvoir sur cette terre, mais en finalité, ils sont retournés vers Allah, Rabbul Izzah. Donc, prenons conscience que rien de ce dunya ne va durer. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, et il restera juste notre Seigneur, Azza wa Jal. Et Ibn Kathir cite, c'est très beau, فَهُوَ تَعَالَى وَحْدَهُ هُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْإِنْسُ وَالْجِنُّ يَمُوتُونَ وَكَذَلِكَ الْمَلَائِكَةُ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ. Sache que le seul qui va rester, qui est éternel, c'est notre Seigneur Rabbul Izzah. En dehors de notre Seigneur, les êtres humains, les djinns, les malaïkas, les anges, et même les anges qui portent le trône d'Allah mourront un jour, lorsqu'Allah l'aura décidé, donc, à la fin des temps, avec le fameux hadith qui détaille « al-nafru fi s-sour » lorsque Israfil alayhi salam soufflera dans la corne pour la fin du monde. Et là, si on peut, juste une petite parenthèse, on est tous conscients que nous sommes mortels, nous avons tous déjà eu autour de nous un cas de personnes décédées ou nous avons peut-être même assisté à l'agonie d'un proche, à l'enterrement. Certains sont même parmi les messieurs descendus peut-être dans une tombe pour y installer un père, une mère, un proche, un ami, un voisin. Ce sont des scènes, ce sont des situations pesantes et qui doivent nous marquer à vie et nous permettre de réaliser que vraiment kullu man 'alayha fan, réaliser réellement kullu nafsin dha'iqatul maut. Là où je voulais juste prendre quelques secondes, quand on dit que même les anges qui portent le trône d'Allah vont mourir. Et ça nous permet de comprendre que notre analyse d'être humain ne peut être utilisée pour comprendre les textes qui décrivent l'au-delà. Nous savons qu'Allah Rabbul Izzah a créé des anges qui portent le trône d'Allah. Maintenant, une réaction, on va dire, une analyse humaine, logique, avec nos lois physiques et notre compréhension, c'est que, na'oudhou billah, si ces anges ne sont pas là, il n'y a personne pour porter le trône d'Allah, et d'autres idées, d'accord, qui découlent de notre logique que je ne peux même pas, que je ne m'aime pas, je ne souhaite même pas citer par respect pour notre Seigneur Rabbul Izzah. La leçon à retenir, c'est que la compréhension humaine n'est pas celle qu'il faut pour comprendre les textes de l'au-delà. Quand Allah nous informe qu'il y a des anges qui portent son trône, on accepte l'information parce que c'est une information qui vient de l'au-delà, qui concerne l'au-delà. Et tout ce qui concerne l'au-delà ne peut être compris par le raisonnement humain. Ça doit être accepté. Sami'na wa ata'na. Ça doit être écouté, accepté, on met en application sans chercher à comprendre. Tout ce qui est autour de nous en termes de pratique, on peut comprendre, on peut en extraire les sagesses, méditer pour avoir plus de compréhension et de prise de conscience de l'action, pour s'impliquer là-dessus sans problème. Mais quand il s'agit des textes de l'au-delà, on a nullement besoin d'essayer même de réfléchir sur ces points-là, parce que ça appartient au monde de l'invisible. Non. Ainsi, le jour de Qiyama, les anges qui portent le trône d'Allah seront eux aussi. Ils vont disparaître aussi. Mais et Allah n'a nullement besoin de ces anges qui portent son trône. Mais tout ça, c'est une sunnat d'Allah. C'est de cette façon qu'Allah a organisé ce dunya. Tout comme Allah a créé des anges qui inscrivent nos bonnes actions et nos péchés, qui rapportent à Allah ce que nous avons fait. Les anges du matin, les anges du soir, les anges qui sont au niveau de nos épaules. Mais Allah n'a nullement besoin de ces malaïcs. Allah sait exactement, comme on a vu à vendredi, قُلِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Allah sait ce qu'il y a de nos cœurs, de nos poitrines. Allah n'a nullement besoin des anges qui rapportent les actions, qui notent les actions, mais c'est de cette façon qu'Allah a organisé ce dunya, et ça nous permet d'avoir des repères et de comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent. Mais en finalité, tout revient à Allah, et Allah n'a besoin de personne. D'où le verset concernant l'au-delà, l'iman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Donc là, on revient un petit peu avec le point d'avant, que le jour des comptes, Allah demandera à qui appartient la royauté maintenant, mais la royauté, elle n'appartiendra qu'à Allah. Hadith qui stipule que lorsqu'Allah va reprendre l'âme de toutes ses créatures, il n'y aura plus personne, et Allah va demander justement à qui appartient la royauté, et Allah va répondre lui-même. Al-Wahid, Al-Qahhar, Allah qui est l'unique, et Allah qui est, c'était traduit par le dominant, c'est peut-être pas une bonne traduction, Allah qui domine, qui est au-dessus de toutes ses créatures. Et ce qu'on retient de ce nom d'Allah Al-Qahhar, c'est qu'Allah est au-dessus, il domine. Allah a toujours existé, et existera toujours, alors que ses créatures ont eu un début et une fin, et ensuite une résurrection. Et là, les savants nous disent, comment est-ce que, aux musulmans, tu peux désobéir à Al-Qahhar, Al-Wahid Al-Qahhar. Comment est-ce que face à un péché, tu peux délibérément désobéir et aller à l'encontre de celui qui t'a créé et celui qui est éternel, celui qui te redonnera, qui te donnera la mort et la vie après la mort. Nécessaire, vraiment nécessaire de connaître les noms d'Allah pour avoir husnul dhanni billah, pour avoir également ta'zimullah, pour avoir vraiment la, pour voir et comprendre la grandeur d'Allah afin que nous soyons plus assidus dans les bonnes œuvres et que nous soyons vraiment, vraiment éloignés des péchés. Hada. Et du coup, si je veux continuer un petit peu avec cette notion de compréhension décalée concernant les anges qui portent le trône d'Allah, je pense que c'est bien, c'est plus ou moins compris. Il faut comprendre également que lorsqu'Allah nous donne, nous révèle ses noms et ses attributs, là aussi les noms et les attributs d'Allah doivent être acceptés par le cœur, par le iman. Et l'être humain n'a pas besoin d'aller dans une explication, na'oudou billah, concrète, cohérente, humaine, et dire que non, tel nom, c'est pas, il faut changer le sens parce que cela n'appartient pas à Allah, ainsi de suite, d'où la naissance de différents courants. Je ne rentre pas dans les détails, mais on a les tahrif, ta'til, taqif, tamthil, qui ont changé le sens des noms d'Allah, des attributs d'Allah, parce que c'était proche des attributs des humains, alors que notre compréhension doit être al-istislam, acceptée comme Allah nous l'a révélé. Hada. Donc, كل من عليها non, كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. La notion de rétribution, petit, grand péché, bonne action, qui nous paraissait insignifiante ou extrêmement importante, c'est une thématique que nous avons développée la dernière fois. Donc, ce sont des thématiques qui reviennent et qui se rejoignent à travers les différents versets. Donc, ça, il n'y a pas besoin de commenter. Ibn Kathir, rahimahullah, il parle de « وَإِنَّمَا تُوَفُونَ أُجُورَكُمْ » mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Il dit parce qu'il est possible que dans le dunya, une personne reçoive une partie de sa rétribution. Quand Allah nous donne de grands bienfaits, c'est un début de récompense de ce dunya. Si Allah nous l'accorde, alhamdulillah, nous remercions Allah. Mais ce que nous devons comprendre, donc, et prendre conscience, c'est que si malgré notre engagement dans les bonnes œuvres, la recherche du contentement d'Allah, si je m'efforce de rester éloigné des péchés, j'essaie de vraiment de m'aligner aux ordres de mon Seigneur, et que malgré ça, je ne trouve pas une amélioration directe dans mes conditions de vie. J'implore mon Seigneur tous les jours, je fais de bonnes œuvres, je fais tahajjud, mashallah, ainsi de suite, mais je suis toujours malade, je suis toujours souffrant, j'ai toujours les mêmes problèmes de santé, les problèmes familiaux, les problèmes de finances ou de travail ou autre chose, c'est-à-dire que mes difficultés sont toujours là. Je ne vois aucune amélioration malgré mon assiduité dans les bonnes œuvres et dans l'éloignement du haram. Les savants disent que sache que dans ce cas, ton Seigneur a décidé de garder l'intégralité des récompenses pour le jour des comptes. Le jour de Qiyama, tu recevras l'intégralité des récompenses de tes bonnes actions. Donc nous devons comprendre comment est-ce qu'Allah agit avec nous, extrêmement important. Pour pas laisser la place à Shaitan avec des insufflations à nous mettre le doute dans le cœur, dans l'esprit. Oui, mais toi, tu es retourné vers Allah, soi-disant, tu commences à prier, ainsi de suite. Mais ta situation n'a pas changé. Et peut-être même, vous savez, des fois, quand on revient vers Allah, après une période, je vais pas dire d'égarement, mais ça peut être une période d'éloignement, je décide, mashallah, d'être assidu dans mes prières, plutôt que de trouver une amélioration directe de ma condition de vie, de ma situation, je peux même trouver, il se peut que je trouve une dégradation, des difficultés. C'est là aussi la sunnah d'Allah, et ça, nous le comprenons à travers l'étude de certains versets, entre autres, « Ahasiba an-nas an yutrafu, ahasiba an-nas an yutraku, an yaqulu amanna wa hum la yuftanun » C'est un verset qu'on cite très régulièrement, où Allah nous rappelle que le sens du verset, la leçon à retenir, c'est que Allah éprouve les gens quand ils reviennent vers lui. Quand on veut être proche d'Allah, Allah t'envoie parfois des épreuves pour tester ta sincérité et ta fermeté dans la foi. Il faut être patient et ne pas tirer de leçons, ne pas tirer de conclusions. Il ne faut pas qu'il y ait l'analyse humaine. Notre analyse humaine, Je donnerai un exemple décalé dans le monde du travail. Ben, tu fais plus d'heures. Et donc, ton patron te paye plus. Tu as plus d'argent, tu peux acheter plus de choses à manger, te faire plaisir. Tu as moins de dettes et tu es moins dépendant financièrement, tu finis le mois. Ça, c'est un raisonnement humain, un raisonnement mathématique. Voilà, ça nous parle directement. Mais dans les relations avec Allah, Rabbul Izzah, c'est totalement différent. Ça peut être comme ça. Il y a des gens, mashallah, ils demandent doua, les doigts sont acceptés, ils trouvent l'aide d'Allah, ils sont heureux. Mais après, attention, là aussi, Allah observe comment est-ce qu'on agit après son aide, après sa nusra. Est-ce que l'homme est reconnaissant ou il retourne vers les péchés parce que maintenant il est bien, qu'Allah nous protège de l'ingratitude. Tout comme Allah peut décider de ne rien donner, ou Allah peut même décider, comme on a lu le verset de la sourate Al-Ankabut, Allah t'envoie encore plus d'épreuves pour te tester. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'il faut rester ferme dans le droit chemin. Quelle que soit notre situation de ce dunya, les pieds sur terre, le cœur avec Allah, avec toujours un husnul dhann billah, une pensée positive à propos de notre Seigneur, une confiance totale en lui, un istislam, une soumission à lui, et on se dit que tout est dans ses mains. Tout est dans les mains d'Allah, Azza wa Jal, et on accepte toutes ses décisions. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Il y a des fois, on veut quelque chose, Allah ne le donne pas, parce qu'il y a un khayr pour nous. Il y a des fois, nous craignons une situation ou un problème, et ainsi de suite. C'est une personne qui fait un bilan sanguin, ou Allah protège, qui fait un scanner, ou un IRM de craint, et il craint de trouver telle chose, telle maladie, telle cellule cancérigène ou autre chose, qu'Allah nous protège, accorde la santé aux personnes éprouvées. Et en finalité, et il a fait beaucoup de doua, il a demandé aux gens de faire doua pendant Ramadan devant la Kaaba, que mes analyses soient bonnes, soient correctes et qu'il n'y a pas de problème. En finalité, il y a ce qu'il craignait. C'est pas que tes doua n'ont pas été acceptés. C'est pas qu'Allah ne t'a pas écouté, na'oudou billah. C'est pas qu'Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, il avait d'autres invocations à exaucer, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est que notre Seigneur a décidé de t'éprouver par quelque chose que tu craignais. Épreuve par la peur, épreuve par la maladie, et Allah est hakim. Allah est sage de ses décisions. Allahu latifum bi'ibadi. Allah est bienveillant envers ses serviteurs. Il leur accorde ce qu'il sait qui est bon pour eux. Peut-être que cette épreuve, et après je ne me permets pas une lecture des épreuves de chacun. On parle de règles générales. D'accord? Pas là pour juger, dire que oui, astaghfirullah, il y a des gens qui ont, j'appelle ça la petite morale, hein, la morale bon marché. J'ai horreur de ça. Il y a des gens qui essaient d'encourager, de dire, ben ça c'est une épreuve, hein, donc, parce que là, tu as dû faire beaucoup de péchés, ainsi de suite. Au nom de quoi? Si tu ne sais pas encourager, ne parle pas. Juste fais doua pour la personne. Mais n'interprète pas le taqdir d'Allah. Personne n'a interprété le destin et ce qu'Allah prend comme décision pour ses serviteurs. Ça appartient à Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, ce qu'on disait juste avant ça, j'ai oublié, il y avait un point important que je voulais souligner. Khayran. Peut-être reprendre la notion d'épreuve. Il se peut qu'Allah t'éprouve par la maladie que tu craignais, parce que dans cette épreuve, il y a un khair, une hikma pour toi. Ce bien, c'était quoi? C'est que Allah veut t'accueillir un jour. Le jour où tu reviendras vers lui, on insiste beaucoup sur ce verset, qu'Allah nous accorde la compréhension de ce verset. Allah décide certainement, voilà, peut-être, ça c'est une interprétation, et Allah, il sait mieux, que il veut que lorsque tu retourneras vers lui un jour, que tu retournes épuré de tout péché. Parce que il se peut que dans ton livret de compte, tu as maintenant 55 ans, ou 63 ans, ou 78 ans, peu importe, durant ta vie, pas forcément la jeunesse, mais durant ta vie, tu as peut-être commis des péchés graves. Et tes bonnes œuvres et tes demandes de tawbah n'étaient pas suffisantes pour obtenir le pardon divin. Et d'autres choses qu'Allah seul sait, et que si tu devais mourir en bonne santé, avec tous les bienfaits autour de toi, tu mourrais heureux aux yeux des gens, comme un bon vivant, bon pratiquant, mais bon vivant aussi, Mais quand tu retournes auprès d'Allah, tu as la mauvaise surprise de trouver tous ces péchés greffés de ton livret de compte. Et qui dit péché dans l'au-delà, nasallahu salam, atawana afiya, c'est purger ces péchés par le feu de l'enfer et qu'Allah nous protège. Et Allah, c'est le seul qui prend ses décisions dans l'au-delà. Ainsi donc, notre Seigneur peut-être, notre Seigneur, certainement, décide de t'éprouver par la maladie que tu craignais pour que tous ces péchés soient définitivement effacés de ton livret de compte, même s'il y a eu des souffrances et tout, et le jour de Qiyama, la personne retrouve un livret de compte qui est totalement vierge, un livret de péché, je veux dire, où il n'y a pas le moindre sayyi'a, le moindre guna, comme on dit, le moindre péché sur le livret de compte, et la personne en ce jour sera la plus heureuse et sera reconnaissante. Dans ce dunya, on voyait cette situation comme une calamité, comme quelque chose de terrible, d'accablant, mais pour notre Seigneur, c'était un rêve, c'était une hikma. Peut-être que notre Seigneur, à travers l'épreuve, te permet de te remettre en question, de revoir ta vision des choses pour aligner ton mode de vie à ce qu'Allah attend de toi parce que tu étais un peu dans le rafla de l'insouciance. Peut-être que par cette épreuve, Allah va attendrir ton cœur parce que peut-être que tu étais quelqu'un de très dur qui n'avait aucune pitié pour son prochain. Aucune pitié de le sens, aucune rahma de le cœur. Il y a des gens qui ont des qualités de pratique, de prière, de lecture du Coran. On a déjà dit, on ne va pas répéter à chaque fois, mais dans le travail, dans les relations, même familiales, qui sont très dures. On parle de psychorigide. Aucune empathie, une approche extrêmement dure et réaliste de la vie. Celui qui, si tu as tel problème, c'est que tu l'as mérité, tu n'as pas suffisamment travaillé, tu aurais dû faire des efforts, et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas la vision islamique des choses. Notre dîn est une religion de Rahman. Allez, je vais vers la conclusion. Et que par cette épreuve, Allah te permet de comprendre qu'en finalité, tout ce qui comptait pour toi, qui te permettait d'être aussi fort et avoir l'impression de dominer, de contrôler, Allah peut reprendre un bienfait qui fait que tu es à terre, tu es alité, tu es privé qu'Allah protège d'un de tes cinq sens, où tu es privé de l'usage d'un membre de ton corps et que tu ne puisses plus te mouvoir, te déplacer et faire telle ou telle chose. Et en finalité, tu vas gagner en humilité, en tawadhu. Et du coup, tu te soumets à ton Seigneur, tu seras reconnaissant jusqu'à la fin de ta vie. Parce que enfin Allah t'a rendu tes yeux, après telle épreuve difficile. Enfin Allah t'a rendu l'usage de tes jambes, alors que tu avais eu tel problème de paralysie ou autre chose, et ainsi de suite. Et par la suite, tu feras preuve de pitié et d'empathie envers les personnes qui sont faibles et tu n'auras pas un jugement sévère sur les personnes qui sont faibles ou qui ne s'en sortent pas. Autant de sagesse de notre Seigneur, Azza wa Jalla. Oula, on est parti un peu loin. On a développé ce qui n'était pas vraiment prévu, mais je regarde le tafsir Ibn Kathir. On est avec Ibn Kathir aujourd'hui, on n'est pas avec Allama Sa'di. J'ai comparé les deux tafsirs, j'ai trouvé celui d'Ibn Kathir bien au-dessus. Allahu Akbar, c'est un développement qui est tout simplement magnifique. Et permettez-moi une énième parenthèse, parce que j'ai le livre en face de moi, je le vois. Il y a le tafsir Ibn Kathir qui est traduit en français. Il y a une nouvelle édition, je ne vois pas le nom d'édition, mais c'est en 4 ou 5 volumes. Très costaud, hein, c'est des volumes de 200-250 pages. C'est vraiment une excellente traduction, une très bonne mise en page. Le tafsir Ibn Kathir en français, nous devons tous l'avoir sur notre étagère à la maison et en faire un ouvrage de référence en même temps que le tafsir de As-Sa'di. Donc Ibn Kathir, rahimahullah, expliquait qu'il est possible qu'on ait une part de récompense de ce dunya à travers des bienfaits. Et donc, la leçon qu'on avait retenue, si tu n'as pas d'amélioration dans ta vie, sache qu'Allah garde l'intégralité des récompenses au jour de Qiyama. Et voilà, si on fait encore d'autres parallèles, il faut juste suivre le fil du verset, mais en prêtant attention à ces différents exemples, de comme quelqu'un fait doua de ce dunya et aucune de ses invocations n'est directement acceptée, c'est parce que notre Seigneur a décidé de garder de garder l'équivalent des récompenses de tes doigts le jour de Qiyama, et que le jour des comptes, la personne trouvera des montagnes et des montagnes de hasanat. Ce seront les doigts qu'il aura demandé de ce dunya et invocations qui n'auront pas été exaucées par notre Seigneur comme nous le souhaitions. C'est pour ça que les savants disent également, si tu demandes à Allah la santé, même si les médecins t'ont dit que tu es condamné ou c'est trop tard, il n'y a plus de possibilité, et ainsi de suite, demande. Même si c'est une situation qui paraît fermée, continue à demander parce que chaque demande sera source de récompense et chaque demande peut-être être exaucé, garder husn dhann nabillah, ne jamais désespérer de la clémence d'Allah, et vous savez que les doigts sont acceptés par Allah tant que le serviteur dit, ou na'oud billah, os dia da'out ou falam mustajabli, j'ai demandé, mais je n'ai jamais été exaucé. Quand le serviteur montre alias, il montre le désespoir, Allah arrête d'exaucer ces doigts, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous permet d'avoir ce husnul dhanni billah. Na'am. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyam. Ibn Kathir dit aqam Allahu al-qiyama, et le jour des comptes, Allah ressuscitera la création et rétribuera chacun selon ses actions. Kathiruha wa qaliluha, kabiruha, saghiruha. Et j'abrège les petites actions, les grandes actions, bonnes actions, je veux dire, les petits péchés, également les grands péchés, ainsi de suite, toute action de l'être humain. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné ce doua magnifique qu'on lit dans la prosternation de nos prières de la nuit. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirra. De ce doua, tu demandes à Allah, ce doua a été imprimé, il y a une carte avec la traduction. On demande à Allah de pardonner l'intégralité de nos péchés, les petits péchés, les péchés qu'on a cachés, les péchés qu'on a fait ouvertement, les péchés graves, et ainsi de suite. Donc, demande ce doua avec prise de conscience du sens et regrette tes erreurs avec espoir qu'Allah nous accorde le pardon. Puis permettez-moi, pour conclure, une latifa, une petite question un peu déplacée peut-être, qu'on se pose à soi-même, est-ce que ça nous est déjà arrivé de faire tahajjud? On va citer le mois de Ramadan, parce que Ramadan, mashallah, tout le monde fait la salat de tahajjud avant le suhur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous endormir dans les prosternations? Parce que justement, quand on lit Allah maghfir li dhanbi kullahu, c'est long. Et si on lit en plus 3 fois, 4 fois, 7 fois, enfin on lit plusieurs fois, il se peut qu'avec la fatigue, il se peut qu'on s'endort de la prosternation. Il se peut également que quand vous êtes dans le sijda, vous vous endormez, vous vous réveillez, vous ne savez plus c'est combien de sijda. Le premier, le deuxième, vous êtes confus, vous êtes embarrassé, et ainsi de suite. Il ne faut pas culpabiliser. Moi, je pense que Allah doit être très fier de nous. Allah doit être très fier et très content de voir ses serviteurs, ce serviteur qui a eu une journée de travail difficile, une journée de travail très physique, et qui a fait le suhu, le tahajjud, et qui est resté dans la masjid, qui a lu le Coran, et pour les dames qui ont lu le Coran chez elles, et qui sont parties au travail, qui ont récupéré leurs enfants, qui les ont déposés, redéposés, le travail l'après-midi, sortir à 18h, et ainsi de suite. Moi, je connais des gens qui sortent du travail à 18h30, 18h45, rupture du jeûne sur le lieu de travail, discrètement, et ainsi de suite. Ils rentrent chez eux, tout juste le temps de faire le maghrib, et de manger, et enchaîner salat al-isha, tarawih, et donc se coucher tard et se réveiller 3h du matin. Allah sait, Allah connaît notre situation. Et cette situation-là, elle n'est pas comparable avec quelqu'un qui, exemple, je donne l'exemple qui nous fait rêver, celui qui habite à Mecca, qui habite à Medina, et qui a la chance d'être en congé durant tout le mois de Ramadan, ou alors tout simplement quelqu'un qui va au Umrah, avec toutes les vertus qu'il y a de faire l'umra dans le mois de Ramadan. Je veux dire que quelqu'un qui s'est libéré complètement un mois de congé, qui est dans un hôtel juste en face de Haram Sharif, et qui a ses facilités avec toutes les récompenses qu'il y a de prier là-bas, c'est incomparable bien sûr. Je veux dire que quand quelqu'un fait une action avec facilité, c'est quelque chose. Mais quand on le fait dans la difficulté, ça nécessite beaucoup de sacrifices, comme le cas qu'on vient de citer, à travers lequel je pense qu'on se reconnaît, et que quand tu te réveilles le soir, tu es fatigué, tu as sommeil, mais tu luttes et tu veux Faire plaisir à ton Seigneur, qu'Allah soit satisfait de toi, c'est un mujahada qui est magnifique, c'est une grande et noble et belle action. Soyons conscients que notre Seigneur voit et distingue sans le moindre doute le sacrifice de chacun, et Allah connaît la valeur de nos efforts. Qu'Allah Rabbul Izza accepte ces quelques paroles. On n'a pas pu compléter, mais on est à 30 minutes, donc on ne va pas aller plus loin. On s'est arrêté. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Il nous reste la deuxième partie qu'on fera demain, inshallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum khairan.